Voilà. Eh bien, je vous laisse lancer le diaporama, Yves. Voilà le titre que j'ai indiqué. Le petit cinéma de Jean Renoir est un écho de ses dernières activités cinématographiques. C'était une série à la télévision qui s'appelait Le petit théâtre de Jean Renoir, avec des courts-métrages qu'il avait tournés et qu'il présentait. C'est intéressant parce que c'est un peu un écho, si vous avez l'habitude, de ce qu'a fait Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock présente, et ces deux metteurs en scène, qui ne se sont pas liés d'amitié particulièrement, mais qui étaient d'âge assez correspondant, ils ont 6 ans d'écart, ont beaucoup de traits communs. Mais personne, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'énormes études là-dessus, mais ça vaudrait le coup. Jean Renoir est donc né en 1894, c'est dire s'il est pratiquement concomitant avec le cinéma, qui est né en 95. Et il est mort en 1979, il était à Beverly Hills, aux États-Unis, et il a été d'abord enterré provisoirement à Beverly Hills, et puis son corps a été rapatrié dans mon village, Essoy, E-2-S-O-Y-E-S, qui veut dire le village des oies. Et il est enterré avec sa famille. Alors, il a une production riche et variée. Peut-être qu'il va falloir que je descende quand même un volet de plus, parce que mes affiches sont un peu sombres. Je voudrais que vous puissiez les voir. Cette production a concerné d'abord des films muets, comme par exemple Nana, qui est une adaptation du roman éponyme de Zola, d'Émile Zola. Vous avez des films qui sont très connus du grand public, comme Une partie de campagne, La grande illusion, La bête humaine, à laquelle j'ai fait allusion quand j'ai fait ma conférence sur la Révolution française au cinéma, c'est La Marseillaise, dans laquelle son frère joue le rôle du roi Louis XVI. Mais il y a aussi une production, il s'est exilé aux États-Unis pendant la guerre, et donc il y a une production américaine, je vous ai mis l'affiche de Swamp Water. Swamps, ce sont les marécages. Je vous ai mis le titre en anglais, parce que le film est sorti en anglais, mais aussi parce que la traduction française a été l'étang tragique. Un étang, c'est pas du tout les swamps, les marécages dans lesquels, par exemple, le méchant va être englouti. La traduction étant mauvaise, je préfère garder le titre français. Mais il est allé aussi, à la fin de sa période américaine, tourner en Inde le film Le Fleuve, qui s'inspire d'un roman autobiographique qui raconte l'histoire d'une famille anglaise installée en Inde et de sa relation avec les gens autour. On peut passer au suivant. Il en manque une.
Oui, j'ai été trop vite.
Ouais. Ah ben non, elle a sauté. Mince. C'est pas de chance. Alors, est-ce qu'elle est... Zut, il me...
Il y a la 2 et ça passe à la 4.
Ben oui.
Elle est méchante, hein. Bon, on va regarder. Pas de panique.
Est-ce qu'elle est arrivée après? Bon, c'est pas bien grave.
Voilà.
Elle est visible. Voilà, ça y est.
Voilà.
Alors, comme ça va très bien. Première période, la période des films muets. Alors, c'est une période qui est intéressante parce qu'il travaille principalement avec son épouse, qui s'appelle Catherine Hessling. En fait, le vrai nom, c'était René Heuschling, d'origine alsacienne, mais un nom germanique, à l'époque, ce n'était pas une bonne idée. Donc, elle a transformé son prénom qu'elle n'aimait pas, René, en Catherine, et son nom germanique en un nom un peu anglo-quelque chose, et Hessling. Alors, il la met en scène dans Catherine, mais le film n'est pas accessible. On sait qu'il a tourné ce film, mais il l'a gardé un petit peu de façon familiale. Puis, La fille de l'eau, qui est un film sur les mariniers, et une pauvre orpheline dont le père était marinier est tombée de la péniche, essaye de survivre, son oncle essaye de la violer, mais fort heureusement, un gentil monsieur photographe et noble finit par tomber amoureux d'elle et tout va bien s'arranger. Ce film est suivi par un autre film muet sur un air de Charleston. Donc il faut imaginer bien sûr que le film était muet, mais que dans la salle il y avait un pianiste qui jouait. Ce film est un film un peu onirique, peut-être un peu inspiré par des mouvements picturaux et poétiques de l'époque. C'est un Africain qui arrive pour étudier Paris, qui rencontre une danseuse qui danse le Charleston et qui dit « Oh là là, dans ce pays, il y a des drôles de mœurs, je vais apprendre les mœurs de ce pays et je vais apprendre à danser comme ça. » Donc, il y a une sorte d'inversion de valeur. Et évidemment, vous pouvez imaginer qu'il n'y avait pas énormément d'acteurs noirs qui étaient mis en image à l'époque. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de Renoir tout au long de sa vie, c'est d'avoir donné leur chance à des acteurs qui d'ordinaire ne trouvaient pas de cachet au cinéma. L'autre film dont je vais dire quelques mots après, c'est La petite marchande d'allumettes, toujours avec Catherine Hessling, d'après une nouvelle, un conte d'Andersen. Il se met à travailler beaucoup plus les effets spéciaux qu'il avait commencé à travailler sur un air de Charleston. Donc là, des effets de rêve, des superpositions, le personnage rêve et en même temps il est debout, au-dessus de lui-même. On l'avait déjà un peu dans La fille de l'eau, mais là, dans La petite marchande d'allumettes, il y a un élément d'invention et d'effets spéciaux important. Les autres films, je préférerais en parler si un jour on fait quelque chose sur sa période muette. On va donc passer à la diapo suivante où j'indique qu'il essaye tout de même... Ah oui, c'est vrai qu'il faut récupérer maintenant le diaporama. C'est un moment où il essaye de trouver son style. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un goût très, très réel pour l'adaptation littéraire. Vous savez, s'attaquer à Zola avec un film muet et réussir à tenir une petite heure sur un roman de Zola à multiples rebondissements, ce n'était pas facile. Donc il a dû beaucoup le limiter. En particulier, il a simplifié les personnages secondaires. Quelquefois, il a pris deux personnages de Zola pour les regrouper en un seul personnage de façon à ne pas avoir une multiplicité d'images. Ça s'explique aussi du fait que pour présenter chacun de ces personnages, il y a un intertitre. Au moment où le personnage arrive, il n'y a pas un générique au début. Chaque fois qu'un nouveau personnage arrive, vous avez un intertitre qui annonce qui va être le personnage et quel est l'acteur. Donc vous imaginez que s'il y avait une multiplicité de personnages, on aurait du mal à suivre l'histoire, en plus à cause des intertitres qui émaillent le film. dès le début, dans Nana, il y a un goût pour l'envers du décor. Ce qu'on voit, c'est Nana qui est une danseuse, et on la voit dans les cintres, et elle est descendue par une corde, et malheureusement, le technicien noue la corde trop courte. Donc, quand elle arrive, les pieds ne touchent pas le sol, et elle essaye désespérément, puis finalement, elle finit par gueuler, dit non, descends-moi plus, etc. Et ça, ce n'est pas du tout dans Zola, c'est une invention. Donc, il y a des inventions, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler la captatio benevolentiae des Romains, c'est-à-dire il faut dès le début capter la bienveillance du public, accrocher, faire mordre le public à l'hameçon, de façon à ce qu'il concentre son attention sur ce qu'on a à dire après. Donc dès le début, il y a des éléments comme ça. Il aime montrer aussi le cinéma dans le cinéma, ou le théâtre à l'intérieur du cinéma, ou le spectacle, l'envers des décors du spectacle. Lors de mes recherches, j'ai trouvé énormément de photographies de tournage. Pratiquement sur chaque film, il y a une centaine de photographies de tournage différentes qui sont prises. Donc il aime ce milieu de la création, et ça l'intéresse presque autant que le résultat final. Et on peut passer à la suivante. Lorsque le parlant arrive, dans le monde entier, tout le monde est très désarçonné par ce parlant, pour des raisons techniques, souvent, parce que, par exemple, on avait des équipes internationales, puisqu'on ne parlait pas. On pouvait avoir un jeune premier allemand, et puis une gouvernante espagnole, et puis et de toute façon, comme les gens ne parlaient pas, ça posait aucun problème. Après ça, tous ces acteurs qui vivaient en France, l'avènement du parlant coïncidant avec les années 30, il y avait par exemple beaucoup de juifs allemands qui, à partir de la montée de Hitler vers le pouvoir, ont commencé à quitter l'Allemagne et à souhaiter vivre dans le reste de l'Europe. Donc il y avait des Allemands qui ne pouvaient pas retourner en Allemagne mais qui cherchaient du travail. Et puis il y avait aussi le fait qu'il y avait des gens qui avaient des voix qui ne passaient plus du tout. Des voix très nasillardes, ou des voix très rauques, ou bien une actrice qui devait chanter, quand il y avait le muet, c'était pas gênant, parce qu'on entendait du piano pendant ce temps-là, ou on entendait une musique enregistrée si on avait un gramophone. Mais à partir du moment où on enregistrait les gens, ça a posé énormément de problèmes. Et donc, Renoir s'y est adapté. D'abord, en commençant en utilisant des mises en scène d'œuvres littéraires, c'est le cas de On purge bébé, qui était une pièce de Feydeau, La chienne, j'ai oublié de qui c'est, La nuit du carrefour, c'est Simenon, Boudu, sauvé des eaux, j'ai oublié aussi le nom, mais je l'ai ici, je vous le dirai tout à l'heure. Et c'est passé un peu vite, mais c'est pas grave. Madame Bovary, évidemment, c'est Flaubert. Tony, et alors Le crime de Monsieur Lange aussi, c'est une adaptation. Tony est une exception. J'y reviendrai un petit peu plus en détail parce que c'est un film tiré d'un fait divers qui s'est passé aux alentours de Marseille, au Martigues. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez clairement les affiches parce qu'elles sont un peu sombres. Les affiches de l'époque, alors, quand vous avez des affiches, elles sont très souvent en bicolore et puis elles sont parfois colorisées par-dessus. C'est-à-dire que si les cinémas sont pauvres, ils peuvent toujours avoir des impressions, des affiches en noir sur fond beige ou en rouge et noir sur fond beige, etc. Et puis, chaque couleur coûtant un petit peu plus cher, parce que chaque fois, il faut faire passer à la coloration, vous avez des couleurs de ce genre où on voit qu'il n'y a pas énormément de nuances dans les couleurs. Vous avez du rouge, vous avez du bleu. Quand ça se mélange l'un sur l'autre, ça fait un peu du marron. Et ça, cette coloration, c'est drôle parce que c'est une technique qui a été reprise aux États-Unis au moment de l'élection d'Obama sur les affiches d'Obama. Vous savez, avec du bleu et du rouge et Yes We Can, etc., qui rappelait cette époque où les affiches coûtaient cher par couleur. On peut prendre la suivante. Alors, après la présentation de cette période, j'ai souhaité faire quelques arrêts sur image. Alors, arrêts sur image de film, et puis on aura un petit extrait pour chaque film. Souvent, c'est la bande-annonce, puisque la bande-annonce est en général en accès libre. Quelquefois, ça peut être un extrait que vous pourrez avoir aussi sur YouTube. Vous voyez qu'on avait déjà une première affiche de Boudu, on en a une deuxième. Là aussi, quelquefois, les affiches sont refaites, ou elles sont refaites dans une région ou dans une ville différente. Et il faut penser aussi qu'il y avait un très grand nombre d'affiches qui n'étaient pas distribuées au cinéma, parce que le cinéma avait son peintre, et on montait des grands panneaux en bois, et le peintre peignait sur les panneaux l'affiche du film. Donc, ces affiches ne sont pas forcément le seul moyen de communication du cinéma à ce moment-là. Alors, Boudu est un brave clochard qui vit tranquillement sur les... pas d'amour, mais d'amour pour son chien Black et d'eau fraîche. Et le chien se sauve et il n'arrive pas à le trouver. Il est tellement désespéré de ne pas pouvoir trouver le chien que... Il se jette à l'eau et malheureusement, on ne voit pas bien. C'est l'image centrale où vous voyez l'image d'un pont et puis Boudu est en train d'essayer d'enjamber ce pont, la balustrade du pont pour sauter. Ce qui est intéressant, c'est que cette image, vous voyez qu'elle nous apparaît dans un cercle. C'est parce qu'elle est vue à travers la longue vue d'un libraire qui habite en face, qui est chez lui, et qui, en se penchant à sa fenêtre, donc il y avait déjà un cadre carré, dit « Oh, quel magnifique exemplaire de clochard !» Et il s'approche, et ils veulent voir de plus près, donc il prend sa lorgnette, il prend sa lunette d'approche, et on le voit qu'il regarde. Et nous, spectateurs, nous avons la vision qu'a le libraire, et on voit le monsieur qui va sauter. Alors le libraire, n'écoutant que son courage, pose sa lunette, court, donc c'est peu crédible parce qu'il est âgé et un peu ventripotent, on ne voit pas comment il pourrait avoir descendu l'escalier avant que Boudu ne saute. Mais enfin bref, il arrive quand même, Boudu est quand même dans l'eau, mais on le repêche et on réussit à le sauver. Et le libraire... qui s'appelle Lestingois, Édouard Lestingois, l'héberge chez lui. Chez lui, il a déjà son épouse et la camériste de l'épouse, qui est en même temps la maîtresse de Lestingois. L'épouse, elle s'appelle Emma, et la maîtresse, alors elle s'appelle Anne-Marie tout au long du début du film, et un petit peu plus tard, elle est appelée Chloé par les autorités. Donc elle s'appelle Anne-Marie Chloé. Et là, je pense que certains d'entre vous l'ont vu, ce film, parce que c'est un film assez connu. Il dérègle tout dans la maison bien ordonnée de ce libraire. Et crime, il crache sur la physiologie du mariage de Balzac. Donc le libraire ouvre le livre et il voit que Boudu a craché dedans. Boudu, je ne vous ai pas dit son prénom, mais il vaut son pesant de cacahuètes. Il s'appelle Priap. Priap Boudu. Voilà. Donc, finalement, on voudrait bien s'en débarrasser. Jusqu'au moment où, coup de théâtre, Boudu avait reçu en cadeau de la part de Lestingois un billet de loterie. Or, c'est le billet gagnant. Alors, du coup, la camériste, qui ne voulait pas entendre parler ni même d'embrasser Boudu tellement il était laid, trouve qu'il est suffisamment beau pour qu'elle l'épouse, maintenant qu'il a gagné au loto. Et donc, les dernières images, on le voit on voit qu'on célèbre le mariage, et ensuite toute la noce s'embarque sur un bateau. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bateau, comme par hasard, chavire. Les gens de la noce arrivent à se sortir de l'eau, et on voit que Boudu, sur le moment, on se dit il est noyé, il est immobile dans l'eau et il descend le courant, et on s'aperçoit en fait que c'était son moyen de prendre la poudre d'escampette, qu'il n'a pas plus de goût pour le mariage à ce moment-là, quand il est riche, qu'il n'en avait quand il a craché dans le livre qui justement s'appelait Physiologie du mariage. Le film évidemment tient très 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 largement autour de la performance d'acteur de Michel Simon, qui était un acteur suisse, à peu près du même âge, je crois qu'il est de 95, donc à peu près du même âge que Jean Renoir, et évidemment très amis, ils se sont très très bien entendus, et on sent qu'il y a une complicité, ce qui fait que Renoir lui a laissé faire énormément de choses. Par exemple, à un moment, on voit Michel Simon qui traverse un couloir, on a l'impression qu'il a un peu trop bu et qu'il se dandine, et tout d'un coup, il se met à marcher sur les mains. Jamais on n'aurait pensé que cet acteur soit si souple. Et donc, il se met à faire les pieds au mur, dans le couloir. Donc, tout lui a été possible et il en a profité. Pardon ?
On tente de le lancer.
Alors, tout le monde se met en prière, croise les doigts, ce que vous pouvez, et on va essayer de lancer l'extrait. L'ordinateur annonce aimablement à Monsieur Fournier que son navigateur est à jour. Mais enfin,
alors, on va tourner la difficulté.
Ah, vous êtes obligé de recommencer.
Ben non, je vais directement dans
le navigateur.
C'est-à-dire, il n'ouvre pas le.
Ah oui.
Le machin. Donc, là, tac.
Voilà. Qu'on avait un champ contre champ. On voyait depuis la fenêtre ce qui se passait, et maintenant on est derrière l'acteur et on voit par la fenêtre.
Vous l'avez fait ?
Oui, bien.
quoi qu'elle est là.
Ou bien elle l'embrasse.
Non, elle l'embrasse bien. Oui, l'embrasse assez.
J'aime pas les affluents là-bas.
Les deux d'un coup.
Oui, coupez-la. À peine ouvert.
C'est pas mon embrasse.
C'est pas bête. Ils vont me plaisir.
Vous voyez qu'il y a des petits carreaux derrière, il y avait des petits carreaux sur la nappe. Il a un goût particulier pour les petits carreaux.
Vous êtes fou ? Vous êtes comme ça qui va vous couper la main ?
Pourquoi ?
Vous êtes encore plus laid qu'avant.
C'est la diapo suivante ensuite. Un autre film dont j'ai choisi de parler, c'est Tony, celui dont je vous ai dit qu'il était inspiré d'un fait divers. Alors, le fait divers est un peu compliqué. Ça se déroule dans le Midi et dans la communauté des immigrants italiens qui arrivent du côté de la Ciotat, du côté des Martigues, pour trouver du travail, souvent dans les autour des chantiers, mais aussi, disons, là, c'est autour d'une carrière. Ils viennent travailler dans une carrière. Ça permet à un moment de voir la carrière s'effondrer. Il y a un accident et la fumée de l'accident a monté. Le thème de l'histoire, un Italien tombe amoureux d'une belle Espagnole. Malheureusement, la belle Espagnole est, disons, nous à notre époque, on dirait violée, mais enfin, elle est forcée par un monsieur qui en profite, une fois qu'il l'a eue, pour l'épouser. Et l'Italien, de dépit, épouse une jeune femme qui lui faisait des avances depuis longtemps, qui s'appelle Marie. Donc les deux amoureux sont désormais séparés puisque chacun est marié de son côté. Les mariages ont lieu le même jour. Donc on voit les deux cérémonies parallèles se dérouler. La fête du mariage réunit les deux mariages en même temps. Et l'époux de Josefa l'Espagnole. J'ai un écho, c'est, ça va. Voilà, s'il y a un peu. Il est trop près. Voilà, parce que ça risque de gêner votre enregistrement. La jeune femme perd son oncle qui était avec elle. Vous m'entendez encore ? Alors, voilà. La jeune femme perd son oncle et fait un petit héritage. Avec cet héritage, là vous entendez ? Avec cet héritage, elle et son cousin Gabi ont l'intention de partir s'installer en Amérique du Sud, vraisemblablement en Argentine. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue Josefa est une actrice argentine. Le mari ne l'entend pas de cette oreille, il veut faire main basse sur l'héritage. À la suite d'une querelle, elle tue son époux et appelle Tony à la rescousse. Et Tony l'aide à cacher le meurtre et à transporter le corps. Et lorsque la police enquête, finalement, Tony accepte d'être considéré comme l'assassin pour protéger Josefa. Et il essaye de s'enfuir, de repartir en Italie et de se cacher. Mais un autre de ses camarades, qui a réellement cru qu'il était coupable, l'assassine à l'endroit même où on avait vu les premières images, tous les immigrants italiens arrivés en train. Alors, le train a une importance capitale dans ce film et a une importance que, en, qu'en analyse de théâtre ou de film, on appelle l'ironie dramatique. C'est-à-dire que quelque chose se passe au début d'un roman, d'un film, d'une pièce de théâtre, qui va en fait annoncer la fin et le reste de l'histoire. Mais évidemment, sur le moment, on y prête à peine attention. C'est un tout petit élément. Vous avez encore du Larsen ? Moi, j'en ai encore. Donc, est-ce que j'écarte un peu le... Voilà,
je vérifie quand même si depuis le... Ouais, c'est bon.
Voilà.
Il n'y a pas de lien, Anthony ?
Ah, mais si, vous en avez un, là, de lien. Bon, ben, ça va aller. OK ? Alors, sur les photos que j'ai prises, parce que là, eux n'ont pas le film, hein, eux, ils ont juste les images. Donc, sur les photos que j'ai sélectionnées, en haut à gauche, vous voyez les ouvriers italiens qui, en fait, là, pour l'instant, c'est un moment où ils sortent de l'entreprise où ils travaillent. Sur la bande-annonce, on verra le train arriver. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous verrez le train arriver, vous vous direz que réellement, la manière dont ce train est filmé n'est pas sans rappeler l'arrivée du train en gare de la Ciotta par les frères Lumière, et que la sortie des usines des Italiens n'est pas non plus sans rappeler la sortie des usines des Frères Lumière. Donc là, il y a là un hommage déguisé. Et de plus en plus, Renoir va en parsemer ses films à partir de cette période-là. On a très souvent un écho, une allusion à une scène très connue du cinéma. Il y a en quelque sorte des pastiches. De la même manière que Hitchcock apparaît lui-même dans ses films, Renoir apparaît souvent dans ses films comme acteur principal ou acteur mineur, mais aussi il aime donner des pastiches, enfin trouver un écho d'un film que les spectateurs vont très certainement reconnaître. Lui-même était un grand amateur de tous les films muets, il adorait Laurel et Hardy. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis avec Yves, parce que lui, il fait Laurel et moi Hardy. Donc, il aimait beaucoup regarder des films et il a aimé faire des citations. Donc là, moi, j'y vois une citation et je pense que je ne me trompe pas, mais ça dépasse le simple plaisir de la citation. C'est-à-dire que ce film, le train qui arrive et le train qui, enfin, et la voie ferrée qui annonce la mort sont réellement la construction, l'alpha et l'oméga du film. Donc, c'est pas seulement pour le plaisir de faire une référence, c'est vraiment pour construire son film. Vous avez vu à l'extrait précédent une fenêtre. Vous allez en voir énormément. Renoir adore les cadrages. Il adore les lignes de fuite. Le train, pour lui, c'est pain béni parce que ça permet d'avoir des perspectives, des lignes, des rails, etc. Et puis, alors, en plus, à l'époque, il y a la fumée, le bruit, ça lui plaît beaucoup. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on arrive bientôt à la bête humaine dans quelques images, parce que ce goût du train, c'est quelque chose qu'il va avoir envie de développer ensuite en filmant. Les autres éléments, vous voyez qu'on avait des éléments très factuels dans les images précédentes, mais maintenant, vous voyez que, par exemple, les images du haut, on dirait presque du dryer. Vous avez les deux personnages, donc amoureux, qui tendent le drap, qui vont plier le drap. Il y a à la fois l'image d'une complicité, mais en même temps, vous voyez que ce cadrage, la photo, ça pourrait être une photo. les deux personnages avec le drap. L'autre personnage, c'est Marie et Tony qui discutent. Elle est assise sur le bord d'un pointu. Et en dessous, vous la voyez, Marie, sur le pointu. Elle s'éloigne parce qu'elle veut se suicider. Parce que Tony lui a, lui a avoué qu'il n'était pas amoureux d'elle et qu'il était amoureux de Josepha et qu'il allait partir avec Josepha. Donc, elle veut se suicider. Bon, heureusement, elle est vite repêchée par des pêcheurs qui la raniment. Donc, ça s'arrange là. Vous avez un personnage qui fait coucou à Tony qui est sur le pont et qui préfigure le personnage qui va lui dire « Arrête-toi, sinon je t'abats ». Et donc, chaque fois, il y a des éléments qu'on voit à un moment du film et dont il y a un écho visuel à la fin du film qui retisse tous les éléments entre eux. Et puis, vous voyez une image qui est prise du pont, mais la partie au-dessous de l'endroit, la partie où on peut marcher, mais qui est en dessous de l'endroit où passe le train. Et puis, l'autre image... Vous voyez le train arriver. Alors, l'image est peu claire. J'aurais pas dû, peut-être, j'aurais dû l'éclaircir. Mais on voit la locomotive tout envahie de fumée. Donc là, elle est encore plus envahie que ce que je pensais, mais on la voit comme ça. Voilà. Les autres films de cette même époque du parlant commencent à être plus longs. Ils commencent à avoir des financements. Les premiers financements qu'il a eus, en particulier pour Tony et pour La vie est à nous, en 36, c'est, il les a eus, alors je vous ai parlé de sa femme, Catherine Hessling, mais il n'est pas très très fidèle, notre monsieur Jean Renoir. Donc, il s'est intéressé à sa monteuse, qui s'appelait Marguerite Heulet, et dans les génériques, vous voyez au premier film Marguerite Heulet et après Marguerite Renoir. Ils ne se sont jamais mariés, mais dans les génériques, elle souhaite que son nom soit associé à celui de Renoir. Et Marguerite est communiste. Alors, grâce à Marguerite, il a des financements du Parti communiste pour réaliser certains films. Alors évidemment, les films montrent toujours la bonté de l'équipe humaine face à l'adversité d'un méchant ou d'un régime totalitaire, etc. Donc, La Marseillaise est une œuvre de commande, La vie est à nous est une œuvre de commande. Tony était une œuvre de commande, mais il a réussi à contourner une grande partie des obligations qu'il avait. Et il a réussi à en faire quelque chose. Alors, c'est Pagnol qui a été le distributeur du film et le financeur du film. Et ce n'est pas très étonnant parce que tout se passe dans le Midi et on a l'accent du Midi. On a une atmosphère à la Pagnol, effectivement. J'ai oublié d'ajouter pour Tony qu'il avait comme assistant... il avait... quatre assistants, dont le jeune Luchino Visconti, qui était à l'époque, il a été son assistant pour plusieurs films. Et les dialogues sont de Jean Renoir et d'un monsieur qui s'appelait Karl Einstein, qui était un acteur, auteur de pièces de théâtre allemand, juif, et qui donc avait quitté l'Allemagne à cette époque-là et à participer à des scénarii et à la rédaction de dialogues. Donc, partie de campagne, je le garde pour la fin, je vous expliquerai pourquoi. La Marseillaise, on en a déjà vu des extraits l'année dernière, et je pense que vous vous souvenez qu'on avait vu un extrait avec... Pierre Renoir qui jouait Louis XVI, et c'était un extrait plein d'humour. Il était en train de manger en même temps, il renvoyait des gens, il y avait beaucoup de mouvements autour de lui, et lui, Louis XVI, était très statique dans son lit, donc pour ceux qui n'étaient pas là à ce moment-là, je rappelle cet élément-là. avant qu'on parle de La vie est à nous, qui va venir juste après, je voulais vous montrer cette première affiche de La Grande Illusion. Alors, La Grande Illusion a eu tellement de succès qu'il y a eu au moins une douzaine d'affiches d'inspiration différentes pour ce film qui ont été faites. Et j'en ai déjà mis une première ici, où on voit Jean Gabin, Pierre Fresnay et Dita Parlow, qui joue la jeune femme allemande qui héberge les deux fugitifs à la fin. Donc elle est dans le dernier tiers du film. Et là aussi, c'était une actrice allemande qui vivait en France et qui avait perdu son emploi à l'avènement du parlant. Parce que pendant que c'était en muet, il n'y avait pas de problème. C'était une très jolie femme qui jouait très bien. Mais à partir du moment où il y a eu l'avènement du parlant, elle avait un accent allemand assez fort. Donc elle ne pouvait pas jouer et Renoir lui a donné un rôle d'allemande. Elle était contente d'avoir Dita Parlow. On va pouvoir passer à la suivante et évoquer tout d'abord Les Bas-fonds. Les Bas-fonds d'après la pièce de Gorky. Donc la scène se situe en Russie. Il y a un méchant propriétaire qui pressure tous ses locataires et il y a un personnage de voleur qui est joué par Gabin et qui trouve en écho un personnage, le baron, qui est joué par Louis Jouvet et qui est un joueur. Donc, ce n'est pas un élément qui se trouvait dans la pièce de Gorky, mais en même temps, c'est un élément qui est très fréquent dans la littérature russe, le thème du joueur. Donc, c'est un baron qui est joueur et qui perd toute sa fortune avec une désinvolture extraordinaire, une grande élégance. Et quand Gabin arrive chez lui, le baron sait que dès le lendemain, les huissiers vont venir pour emporter tout ce qu'il y a dans sa maison. Donc finalement, que ce soit emporté par les huissiers ou par un voleur qui a l'air, ma foi, bien sympathique, il préfère le voleur. Alors il lui donne tout ce qu'il peut lui donner et il l'invite à dîner avec lui. Il partage une cigarette comme lui, le baron n'en a plus. C'est le voleur qui va lui donner la moitié de sa cigarette. Donc ils terminent très amis. Et donc le baron, à un moment, va aller se réfugier, quand il n'aura plus de toit sur sa tête, va aller se réfugier dans les bas-fonds. Alors, il a perdu un peu de sa superbe, mais il garde de son élégance. Et la confrontation entre le mauvais garçon gouailleur ou le parasite, etc. Et l'homme très élégant, c'est toujours quelque chose qui fascine Renoir. Et on l'a déjà vu dans Boudu, mais dans Boudu, le libraire était cultivé, mais il n'était pas d'une grande élégance. Mais là, à partir de là, Jouvet entre dans les films de Renoir, et avec son flegme, les dialogues qui ont été ajoutés qui ont été modifiés par rapport à la pièce de Gorky sont toujours des choses très humoristiques. Le personnage du baron, c'est vraiment l'occasion de dialogues assez enlevés, assez époustouflants. Et les scènes qui sont dans les bas-fonds, la manière dont elles sont filmées fait écho à la manière dont sont filmées les scènes dans La Grande Illusion quand les prisonniers sont ensemble entre eux, quand les prisonniers français sont entre eux. Et on retrouve quelquefois les mêmes personnages. Par exemple, là, il y a un acteur ivre et il y a un instituteur qui aime citer les grands auteurs, de la même manière que dans La Grande Illusion, il va y avoir un spécialiste de Pindare qui aime citer Pindare, etc. Vous retrouvez les mêmes figures, quelquefois jouées par les mêmes acteurs, d'ailleurs. La dernière photo, Gabin décide de quitter les bas-fonds, tandis que le baron décide de s'y installer définitivement, après l'assassinat du méchant propriétaire. Et le méchant propriétaire est assassiné, la maréchaussée vient enquêter et la sœur de la jolie chérie, j'ai oublié son prénom maintenant, elle s'appelle Natacha et sa sœur s'appelle... Bon, peu importe. La sœur était amoureuse de Gabin. Alors elle le dénonce, elle dit « C'est lui qui a tué, je l'ai vu, j'étais là. » Mais heureusement, tous les méchants des bas-fonds, enfin tous les mauvais garçons des bas-fonds, disent « C'est pas vrai, on a chacun porté un coup, on n'en pouvait plus, ce sont les bas-fonds qui l'ont tué. » Alors c'est intéressant parce que ça fait écho, et ça c'était dans Gorky, ça fait écho à une pièce de théâtre espagnol de l'époque du siècle d'or, donc à cheval 16e-17e, qui s'appelle Fuente Ovejuna, la fontaine aux brebis, et où il y a un village avec un méchant qui a été tué, et tout le village dit Fuente Ovejuna lo hizo, lo mató. C'est-à-dire c'est Fuente Ovejuna qui l'a tué. Donc cette pièce de Gorky fait écho à ça, et Renoir l'a bien mis en scène et a bien insisté là-dessus. Alors, cette image, vous avez eu bien raison de mettre un gros plan dessus. Cette image-là, c'est Gabin et sa chérie Natacha qui décident de partir avec le peu d'argent qu'ils ont et de s'établir et de vivre désormais une vie honnête et agréable. Et on les voit donc sur la route. C'était bien le gros plan que vous avez fait, mais c'est pas obligé de le refaire. Voilà, on les voit partir sur la route. Je ne sais pas si ça éveille en vous un écho, ça. Mais si on regarde le bout de film que j'ai... Est-ce qu'on peut l'avoir ?
Suspense. C'est ça ?
Non, c'est pas celui-là. C'est celui où il y a écrit Modern Times. Non.
Non, mais je l'ai fait dans l'ordre, donc je vais
l'apprendre. Ah oui.
Je vais l'apprendre. C'est pas donné, c'est l'autre. Celui-là.
Voilà, c'est on peut voir l'extrait là, si vous voulez, puis après on regardera Modern Time. On peut voir les deux extraits. Il a une maestria pour faire ça. Moi, je suis complètement perdue sur ce... les liens qui étaient actifs chez moi ne sont plus actifs. Donc, chaque fois, M. Fournier est obligé d'aller chercher, de faire un copier-coller, d'aller sur YouTube, de mettre son truc. On y va ? C'est parti. Voilà. Oui, c'est ça. C'est bien celui-là. Alors, mais eux ne le voient pas. Comment est-ce qu'on fait pour le leur passer ? Parce que c'est pas... Voilà. Alors, nous, on se régale, mais vous, c'est frustrant pour vous.
Je reviens derrière. Il faut que j'enlève le diaporama.
Junie Astor, c'est Natacha.
Thank you.
Là, c'est Jouvet du temps de sa splendeur, le baron. Là, c'est un inspecteur des maisons et des locations. Il est très riche et il a jeté son dévolu sur la belle Natacha. Évidemment, le beau-frère se verrait bien vendant la Natacha à l'inspecteur pour que l'autre ne vienne pas faire de rapport désagréable sur son gourbi qui loue... beaucoup. Non, malheureusement, le suivant, c'est tiré des temps modernes. Modern Time, voilà, c'est celui-là.
Il est peut-être déjà là, le temps moderne, c'est là.
Non.
Je vais le reprendre.
Oh, c'est pas grave, on va le sauter. Vous... Je ne sais pas si vous voyez, c'est les dernières images des temps modernes avec Charlot et Paulette Godard. Et ils s'en vont ensemble sur une route. On les voit d'abord subjectifs et ensuite objectifs. C'est-à-dire qu'on les voit d'abord venir vers nous et puis l'image d'après, on les voit s'éloigner tous les deux sur la route. Et en fait, Gabin avec Natacha... C'est exactement la même image et il ne peut pas ne pas l'avoir copiée en hommage, en fait. D'autant que il était très ami avec Paulette Godard, qui...
J'ai l'impression qu'il se mûre.
Il tourne, peut-être. Ah ben vous l'avez trouvé, c'est parfait.
Thank you.
même thématique des deux personnages qui s'apprêtent à affronter l'adversité, qui pourraient se dire à quoi bon, et qui partent tous deux. Donc, à l'évidence, il y a un hommage ici. Alors, je pense que ça passe tout de suite à la grande illusion, après, oui. Vous voyez que cette période-là, de 34 à 39, c'est vraiment sa grande période de production des films qui ont fait date dans l'histoire du cinéma. La grande illusion a eu énormément de succès. Ça n'a pas forcément été le cas ni des Bas-Fonds, ni de la règle du jeu, dont on parlera après, que Renoir a pris comme des échecs retentissants. Et peut-être que c'est ça qui l'a déterminé, avec les risques politiques qu'il encourait en restant en France, mais ça aussi, ça a pu le déterminer à essayer de tenter sa chance aux États-Unis en se disant qu'il n'était pas assez bien compris dans le cinéma qu'il faisait en France. Alors, un petit arrêt sur image. C'est pas gênant si les petites diapos restent sur le côté. Ben ça, hein, vous inquiétez
si
pas.
Si vous voulez que je fasse le zoom...
Non, je suis désolée. J'ai vraiment... J'ai vraiment l'impression d'exploiter le monde, là. Allez, voilà. Alors, quelques autres affiches. Ici, encore une affiche, mais où von Stroheim apparaît. Gabin, qui joue de l'harmonica. Et la musique qu'on va pouvoir jouer à l'intérieur du film, elle a une importance capitale, puisque c'est grâce à des flûtes et à de la musique que les deux personnages qu'on va voir à la fin vont pouvoir s'évader. Une autre affiche, vous en avez encore une en noir et blanc. Je vous ai dit que quelquefois, pour des raisons de finances, les affiches n'étaient qu'en noir et blanc, et c'est corroboré par le fait que vous voyez dans l'affiche en noir et blanc au milieu, il y a sur la partie haute, il y a l'affiche de cinéma, mais sur la partie basse, j'allais dire, il y a de la pub qui a contribué à financer l'affiche elle-même. Donc à la fois une affiche pas très chère, parce que seulement en noir et blanc, et en plus partiellement financée par les quintuplettes Dionne du Canada, etc. Une autre affiche en haut à droite, où là, on a des tonalités brunes, mais en fait, c'est la même tonalité dans plusieurs dosages de saturation. En dessous, vous avez ici une image, celle-ci va très bien, vous avez en médaillon des portraits de personnages, et vous voyez le château dans lequel les personnages de la Grande Illusion sont enfermés, leur deuxième château, le plus important, qui a été tourné dans le Haut-Königsbourg.
Voilà.
Voilà. Et ici, c'était pour vous montrer une autre affiche où on voit, par exemple, que Pierre Freinet n'est pas très ressemblant. Il a, dans la vie, il a le menton un petit peu plus carré. Enfin, donc, et là, en bas, une affiche qui insiste sur la troisième partie, l'histoire d'amour entre Maréchal, le lieutenant français, et la jeune paysanne allemande qui va héberger les deux fuyards. Von Stroheim n'a pas été choisi par Renoir. Il lui a été imposé par la production. En même temps, dès que Renoir a su que von Stroheim allait jouer un rôle, il a étoffé immédiatement ce rôle. Et puis ensuite, quand il en a parlé à von Stroheim, von Stroheim a dit « Je voudrais faire encore plus de scènes ». Parce qu'au départ, il devait faire les dernières scènes, enfin, les scènes principales, où il assassine son ami. Mais on lui a étoffé son rôle parce que c'était lui et parce qu'il avait envie, quant à jouer dans ce film, d'avoir un rôle conséquent. Ça a permis de concentrer l'intérêt sur ce monde qui s'en va, ce monde de la guerre en gants blancs qui disparaît avec la guerre de 14 et dont les protagonistes sont von Rauffenstein, qui est joué par von Stroheim, et puis le capitaine de Boieldieu, qui est joué ben voilà, par Pierre Fresnay. Et ça, c'est la bande-annonce. Vous voyez le géranium devant la fenêtre. Ces courts extraits nous permettent déjà quand même d'apporter quelques éléments d'analyse. Tout d'abord sur la présence de la femme. Renoir adore mettre en scène les femmes. Et ses films en sont la preuve. La troisième partie du film, c'est très bien, parce qu'il y a Dita Parlo, qui a sa petite fille Lotte, et qui apporte à Maréchal un élément familial. Mais dans toute la première partie du film, ben, il n'y a pas de femme officier, il n'y a pas physiquement de femme. Alors, comment est-ce que Renoir va se débrouiller pour quand même insérer des femmes à l'intérieur d'un lieu sans femme ? Au tout début, vous voyez Jean Gabin, le lieutenant maréchal, qui écoute un disque. Et il chantonne en même temps, et c'est Froufrou, bien souvent la femme, etc. Donc c'est une chanson sur les femmes. Dans cette première scène, il doit partir en ville avec un camarade, parce qu'il a rendez-vous avec une Joséphine. Bien sûr, Joséphine. Donc on sait qu'il a une bonne amie quelque part en ville. On va faire de la post-synchro, je vais venir m'enregistrer à nouveau, hein, si ça fait ça. Et ça a l'air bien ?
Oui, c'est bien.
Là, ça va. Donc, il a une bonne amie quelque part en ville. Un peu plus tard, on est vraiment dans un milieu d'hommes. Et puis, comme ils sont prisonniers, il ne peut pas être question des petites amies des uns et des autres. Mais à un moment, arrive une malle de vêtements de théâtre. Et il y a beaucoup de vêtements de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils décident de confier aux plus jeunes des soldats, des prisonniers, des vêtements de filles. Et il est maladroit comme tout, il est comme ça. Mais il dit, ça fait bizarre. Et les autres sont tout troublés de voir ce petit jeune homme de voir brusquement ces vêtements de femmes au milieu de leur univers très masculin. Donc voilà comment les femmes arrivent. Et puis il y a la scène que vous avez vue où les prisonniers de toute nationalité ont organisé un spectacle et les Anglais ont enfilé tous les vêtements de femmes qui sont arrivés. et vous les voyez danser sur l'air de « It's a long way to Tipperary », qui était la grande chanson de la Première Guerre mondiale des Anglais. Et vous entendez, au moment où Gabin dit « Les copains, arrêtez, on a repris Douaumont », ce sont les Anglais qui chantent la Marseillaise. Tout le monde s'est levé. Et comme c'est les Français qui sont sur... les Français chantent aussi, mais ce sont les Anglais qui entonnent, qui sont spectateurs du spectacle des Français, qui entonnent la Marseillaise et tout le monde chante la Marseillaise. Évidemment, Douaumont est un élément symbolique et significatif parce que c'est un endroit qui a été pris et repris moult fois. Et donc, c'est plutôt le symbole de la... du désastre qu'a été cette guerre européenne à l'orée du XXe siècle, plutôt que l'idée d'une grande victoire française. Ce qui montre aussi le désastre qu'étaient les guerres, c'est que quand ils arrivent chez Dita Parlo, je cherche son nom, Elsa. Voilà. Quand ils arrivent chez Elsa, Elsa est veuve, et elle montre des photos. Et son père, ses frères, son mari, tous sont morts lors de victoires allemandes. Et évidemment, en 1939, on se souvient bien de tous les noms, de tous les lieux des victoires françaises et tous les lieux des défaites françaises. Donc, ce qui montre à quel point les choses sont tragiques dans une guerre et aberrantes, c'est qu'elle... Pour elle, chacune des victoires allemandes, c'est...
Venez voir de ce côté-là.
Je viens de ce côté-là, on va voir.
Parce qu'en fait, c'est à leur...
Je suis trop loin.
Non, c'est à leur fin d'arrivée, on va voir.
Alors, on va voir. Est-ce que c'est mieux comme ça ?
On essaie.
Bien, on essaye. Donc, pour elle, chacune des victoires allemandes, c'est une défaite personnelle. C'est un deuil personnel. Et c'est une manière de montrer l'horreur et le ridicule de la guerre. Qu'est-ce que... Je me suis arrêtée au milieu. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Donc, la femme. On voit aussi l'amitié entre les personnages. Donc on voit von Stroheim, von Rauffestein, qui dit « Je suis désolée de vous revoir ici ». Il y a une grande politesse dans tout le film. En fait, ce qu'on voit, c'est que les amitiés se créent par camaraderie. Et forcément, les lieutenants sont amis avec des lieutenants, les capitaines avec des capitaines, les commandants avec des commandants. Et il y a presque plus d'intimité entre les deux, le français Boieldieu et l'allemand von Rauffestein, à un moment,
pas terrible.
À un moment, on les voit avoir une discussion sur cette fameuse fenêtre où il y a le géranium. Et dans cette discussion, ils se rendent compte de deux choses. C'est que ils ont des connaissances communes. Il y a un cousin de Boieldieu qui était un ami de Rauffestein en Allemagne. Et puis, il se rappelle un lieu d'amour tarifé qu'ils ont fréquenté l'un et l'autre, et en particulier d'une petite dame dont on se rend compte que ils l'ont connu l'un comme l'autre. Donc on peut dire qu'ils ont quasiment servi dans le même corps. Ça les rassemble. Voilà. Et
c'est venu comme ça.
Oui.
C'était pas préparé à l'avance.
Non, c'était pas préparé à l'avance. C'était, je me demandais si j'oubliais des choses. Donc, il y a une camaraderie de guerre qu'on ne verra plus évidemment dans les guerres suivantes. Et en même temps, cette camaraderie, justement, elle fait que la camaraderie des Français entre eux, des Anglais entre eux, c'est aussi une illusion, puisque chaque fois, il y a des choses qui les séparent. Par exemple, tous les prisonniers sont ensemble dans leur, disons, une salle commune, chambrée commune. Et dans la première, le premier lieu où ils sont emprisonnés, ils essayent de s'évader en creusant un grand souterrain ensemble. Et là, il y a beaucoup de camaraderie entre eux, puisque de toute façon, ils sont obligés de surveiller celui qui va au fond pour qu'il ne tombe pas par manque d'air, etc. Et, mais en même temps, cette camaraderie, déjà quand on les emmène dans un autre lieu, ils essayent de prévenir les Anglais qui arrivent qu'ils ont creusé un trou dans leur chambre. Mais comme eux ne parlent pas l'anglais et que les Anglais ne comprennent pas le français, eh ben, le message se perd. Le seul qui parle bien l'anglais, eh ben, c'est Boieldieu. Et Rauschenstein aussi parle bien l'anglais, ce qui fait que vous avez pu entendre dans le film que lorsque Rauschenstein a envie de dire quelque chose à Boieldieu qu'il ne veut pas que les autres entendent, il le dit en anglais, il dit « si vous ne vous arrêtez pas tout de suite, je vais être obligé de vous tirer dessus ». Et qu'est en train de faire Boieldieu pendant ce temps ? Il a une flûte, il est perché tout en hauteur, et il est en train de jouer un morceau à la flûte pour distraire l'attention des Allemands pendant que Maréchal s'en va avec un camarade. Que joue-t-il à la flûte ? Est-ce que vous avez vu le film ? Est-ce que quelqu'un se souvient ? Il était un petit navire. Et dans Il était un petit navire, il y en a un qui est sacrifié, c'est le plus jeune, c'est lui qui serait mangé. Le petit navire, c'est l'histoire d'un sacrifice pour que les autres survivent. Et c'est tout à fait cette histoire-là. Et dans la fuite que Gabin va avoir ensuite avec son acolyte, ils se chantent, ils se braillent la chanson parce qu'ils ont un moment de dispute, de colère. L'acolyte, vous vous souvenez de son nom ? Il s'appelle Rosenthal. Et donc, dans l'histoire, bon, il est joué par un acteur qui est Marcel Dalliot. Et Marcel Dalliot, le vrai nom de Marcel Dalliot, c'est Blauschild, comme Rothschild, mais bleu et pas rouge. Et il joue le rôle d'un juif. Donc, il est un acteur juif, il joue le rôle d'un juif. Et dans le film, c'est lui qui est le plus généreux, qui reçoit beaucoup de bonnes choses et les distribue. Vous avez vu qu'il dit, voilà, il va y avoir je ne sais plus ce qu'il proposait comme menu, mais il était en train de distribuer de la nourriture. Et il disait, c'est bien ici, les prisonniers mangent mieux que leurs geôliers. Donc, Renoir s'amuse à casser les stéréotypes autour du juif et il va faire la même chose à l'intérieur du film La règle du jeu, où le rôle du baron est aussi joué par Marcel Dalliot. En même temps, ça n'empêche pas Maréchal, à un moment, quand il s'est fâché avec Dalliot, parce que Dalliot a mal aux pieds, et, enfin avec Rosenthal, parce que Rosenthal a mal aux pieds et le retarde dans sa fuite, ça n'empêche pas, à un moment, quand ils se sont bien engueulés, de le traiter de sale juif, et puis après, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Donc, voilà. Toujours en accord avec ce film, à l'intérieur de la chambrée, à un moment, il y a un Sénégalais qui est joué par Habib Benglia, qui était le noir de service à l'époque, quand on avait besoin d'un noir pour jouer le film. Et ce qui est intéressant, c'est que le Sénégalais ne participe pas réellement aux préparatifs de fuite, comme s'il était un peu en dehors. Et pendant que les autres sont en train de dessiner la carte du lieu pour pouvoir s'enfuir, etc., lui, le Sénégalais, il a dessiné une image en disant « Oui, ben moi, j'ai fait ça, vous voyez, c'est une image juste, une image symbolique. » Et en fait, on comprend que sa présence là est symbolique, que lui... Il symbolise tous ces Africains que les Français ont massacrés, enfin, ont envoyés dans les tranchées, mais qui avaient moins de chances que les autres de survivre au froid, à la pluie et à un climat qu'ils ne connaissaient pas. Donc, on a cet élément-là. Et juste pour la petite histoire, Renoir s'était inspiré des récits d'évasion d'Armand Pinsard. Donc Armand Pinsard, c'est celui qui est maréchal dans l'histoire. Et évasion qui avait été facilitée par le général Paul de Villelume dans l'histoire de Pinsard. Mais en fait, le personnage incarné par, par Pierre Freinet est un personnage que Renoir a réellement connu, puisque Renoir a fait la Première Guerre mondiale. Il était dans l'infanterie, il a été blessé, à la jambe et il a boité toute sa vie. Et en fait, il avait, lui, un général qui s'appelait... il avait un capitaine qui est devenu après, qui s'appelait le capitaine Bossu. Et c'est ce capitaine Bossu qui est... disons, qui a prêté une grande partie de ses traits à Freinet. Donc, des personnages ayant existé. Alors, je parle du capitaine Bossu en me disant, j'ai connu sa nièce qui était dans les pattes de ma maman, qui s'appelait Madame Bossu, sa nièce par alliance, qui s'appelait Madame Bossu. Alors, on va pouvoir passer au film suivant, parce que je vois que l'heure tourne. Et... je pense que ça sera la règle du jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou la bête humaine, je ne sais plus. Je ne sais plus de quoi je voulais parler en suivant. Peut-être bien la bête humaine, quand même. Oui, la bête humaine. Alors, voilà quelques images. Vous voyez des affiches qui sont de plus en plus érotisantes. On a des personnages, donc Gabin et Simone Simon, qui joue le rôle de Séverine, l'amoureuse de Gabin. C'est une adaptation d'un roman de Zola. Le personnage principal...
C'est un lentier.
Oui, c'est un lentier. C'est un... Donc, je ne sais plus qui s'appelle Jacques, non? Jacques Lantier. Oui, Jacques Lantier. Donc, Jacques Lantier, donc, il fait partie de la famille des Rougon-Macquart, c'est le fils de Gervaise, de l'Assommoir. Et on est tout de suite plongé dans Zola parce que quand la musique de générique défile, on voit une citation de Zola disant, comme si c'était Lantier qui parlait, il sentait monter en lui une révolte à l'idée qu'il était le dépositaire de générations d'alcooliques et que lui-même, qui n'avait jamais bu une goutte d'alcool, il avait les caractéristiques de violence en lui, des alcooliques, etc. Donc, c'est une citation directe d'Émile Zola. Le film fait de nombreuses références et est assez fidèle à une partie du livre. Mais là aussi, des personnages ont été supprimés, des intrigues secondaires ont été enlevées, de façon à ramasser davantage le film sur lui-même. Donc, la caméra se concentre sur Jacques Lantier. Jacques Lantier est aux prises avec des crises de violence qu'il ne maîtrise pas et qu'il éprouve sous l'effet du désir. C'est-à-dire que pour lui, l'accomplissement de son désir, c'est l'assassinat de la femme dont il est amoureux et pour qui il a du désir. On a un premier élément avec son ami d'enfance et c'est près d'une voie ferrée et le train passe, où il l'embrasse et il commence à l'étrangler, mais heureusement un train arrive, il y aurait donc des témoins et il est obligé de s'en aller. Et quand il rencontre Séverine et qu'il en est amoureux, au début il n'a plus ses pulsions, il croit qu'il va en être définitivement guéri, mais en fait, malheureusement, à la fin du film, on voit qu'il l'assassine. Le scénario a été écrit par Jean Renoir, assisté de Denise Leblond-Zola. Vous savez que Zola a vécu en concubinage très longtemps et a eu des enfants, et Denise Leblond-Zola était donc la fille d'Émile Zola, et elle a participé à la rédaction des dialogues. Et en même temps au découpage et à l'élimination de certains épisodes du roman. Au fond, ça n'a rien de vraiment catastrophique dans la mesure où on sait que une grande partie des romans de Zola ont été publiés en feuilleton dans des magazines, dans des journaux. Et on peut se dire que les gens qui lisaient n'avaient pas forcément tous les épisodes. Il pouvait avoir un moment où il pouvait avoir sauté un épisode, ne pas avoir lu tel ou tel passage. Donc, au fond, faire un découpage à l'intérieur de quelque chose qui a tout d'abord été publié en feuilleton, c'est pas si idiot, au fond. Et puis aussi, le format de film nécessite qu'au bout de 2 heures, on ait fini le film, alors que le roman, on peut le lire sur plusieurs journées. Donc, il faut aussi en tenir compte. Comme cadreur dans ce film, il y avait Claude Renoir. Il a un petit frère qui s'appelle Claude, mais il a un neveu qui s'appelle Claude. Donc c'était Claude le neveu. Et Alain Renoir, qui est le fils de Jean Renoir. Alain Renoir est quelqu'un d'intéressant, qui est mort il y a une quinzaine d'années, je pense. Et dès que vous vous levez, déjà, on entend moins le Larsen. Et Alain Renoir s'est engagé dans l'aviation pendant la guerre, dans l'aviation américaine, puisque son père habitait les États-Unis. Et à son retour de la guerre, il a continué des études et il a été professeur d'anglais et de littérature médiévale à l'université de Berkeley. Donc il a eu une belle carrière aussi. Mais tout jeune, il a été clapman le tournage d'une partie de campagne. Donc on le voit par moments en train de faire le clap de début, il avait 15 ans. Et puis, quand il était un peu plus grand, il a été cadreur. Donc Renoir travaille beaucoup avec sa famille. Le montage, c'est Marguerite Lay. La photographie, c'est Sam Levin, encore un juif transfuge d'Allemagne qui cherchait un petit peu de tranquillité, puis qui après est parti aux États-Unis lorsque la France a été envahie. Et la musique est de Joseph Kosma. Donc vous avez un ensemble qui est là. L'occasion. Alors là, je voudrais vous montrer un extrait où on voit bien la locomotive. On peut y aller. Ben, je pense que c'est celui-là, oui. Voilà, Fernand Ledoux est le mari de Séverine. Alors, je ne sais pas s'il n'y en a pas un deuxième, mais un deuxième extrême, je ne suis pas sûre. Il faut se dire aussi que toutes les scènes qui étaient filmées, par exemple, on voit Renoir, on voit Jean Gabin, Lantier, qui passe la tête. Il faut imaginer la grosseur, la taille des caméras à l'époque. Pour arriver à bloquer une caméra sur une locomotive pour qu'elle puisse filmer un personnage qui sort la tête, ou qu'on puisse bloquer une caméra à l'extérieur pour voir le train entrer dans un tunnel. C'était des journées et des journées de travail. Il fallait des soudeurs pour souder une coque pour mettre la caméra en sécurité. Il fallait des câbles pour manœuvrer la caméra depuis plus loin, etc. Donc, il a fait face sans cesse à des défis techniques assez époustouflants, quand même. Nous, on a un peu l'habitude, parce que maintenant, à l'ère du selfie au bout d'une perche, on ne se rend pas compte de la difficulté que ces scènes représentaient. L'histoire est aussi une histoire un peu filmée comme un film noir, une histoire policière, puisqu'au début, on apprend que Séverine, lorsqu'elle était petite, était violée par son parrain, qui était le propriétaire du domaine où sa maman était domestique, et que ce parrain lui a fait des cadeaux, et ça rend Ledoux furieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est dans une autre période, c'est-à-dire qu'au lieu d'être plein de sollicitude pour ce que cette jeune femme a vécu, il est furieux contre le noble qui a fait ça, mais il est furieux aussi contre sa femme, par exemple, parce qu'elle avait accepté une bague qu'il lui avait donnée, en quelque sorte en dédommagement de ce qu'il lui avait fait. Et à l'intérieur du train, Ledoux tue le violeur de son épouse, et Gabin les voit. Donc le reste du film est montré autour de ça. Vous avez vu brièvement dans la bande-annonce Jean Renoir. Jean Renoir joue le rôle du personnage un peu marginal et injustement accusé du meurtre, parce que lui, il était sur place aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le roman de Zola, c'est qu'il y a un personnage marginal qui est injustement accusé, mais du meurtre de Séverine. Et Jean Renoir Denise Leblond-Zola, la fille de Zola, ont resserré l'intrigue en faisant en sorte que, dès le début, le personnage soit soupçonné du premier meurtre et non pas du second, pour que le film puisse se terminer sur la violence du second meurtre et qu'on n'ait pas en plus un certain nombre d'épisodes autour. Alors, il est temps que je vous parle maintenant de la règle du jeu. Comme ça, on aurait pu regarder tout de suite la danse macabre qui se... Voilà, on peut regarder ça en premier. Vous avez reconnu Jean Renoir. Voilà, si on revient aux images. Est-ce qu'on peut revenir au diaporama ? Vous avez vu déjà dans cet extrait un grand nombre d'éléments. D'une part, l'idée que la danse macabre, c'est l'élément principal visuel du film. Ça commence par le piano qui joue tout seul, ce qui est un peu inquiétant parce qu'il y a des gens qui regardent et qui ont l'air... affolés, tristes, d'autres qui regardent, qui commencent à regarder ce qui se passe ailleurs. Une danse avec des fantômes, d'abord des parapluies, des cadavres de parapluies, puis les fantômes, et un personnage en combinaison figurant la mort, en combinaison de squelette. Cette image du squelette, ce n'est pas la première fois qu'elle apparaît dans les films de Renoir, puisque déjà dans La petite marchande d'allumettes, qui était un film muet, elle tombe amoureuse dans son rêve d'un beau, d'un bel officier prussien qui a un très beau chapeau, et puis des brandebourgs. Et dans le rêve, les brandebourgs deviennent flous, et à un moment, c'est plus les brandebourgs, c'est la mort, c'est le squelette. Et c'est un personnage qui a c'est un acteur qui est habillé comme ça, qui apparaît. Donc déjà, dans le film muet, cette thématique de la mort et du déguisement et du jeu apparaît. Puisque dans La petite marchande d'allumettes, elle est devant un magasin de jouets et quand elle s'endort dans le froid devant ce magasin, elle rêve qu'elle est dedans et que les jouets sont animés et jouent avec elle. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici clairement dont je pourrais parler ? Je pense que si on le met en plein écran, on devrait y arriver. Voilà. Alors, vous voyez l'image en haut à gauche, c'est un portrait de Jean Renoir à 16 ans en tenue de chasse, mais malheureusement on ne le voit pas bien. Ça fait complètement écho en tenue de chasseur. Hein, il a un fusil, il a son chien à ses pieds et il a des bandes molletières autour des jambes pour aller à la chasse. En dessous, là, l'image que vous voyez un peu mieux, vous voyez les gardes-chasse, le comte de la Chênaie, et au milieu, ces carrettes qui jouent le rôle du braconnier avec son chien et qui se fait arrêter et qui réussit parce qu'il a tellement d'humour et c'est un personnage un peu picaresque, un peu drôle, il réussit à embobiner la Chênaie qui va le prendre à son service. Et c'est drôle parce qu'on considère que c'est comme une sorte de promotion sociale de devenir domestique dans un château quand on est, quand on est braconnier. Les personnages... Là, c'est pendant le bal masqué. Vous voyez Octave, qui est joué par Renoir, qui essaye désespérément de se débarrasser de sa peau d'ours. Et pendant longtemps, on le voit avec la tête sous le bras, la tête d'ours. Et puis là, c'est le personnage qui était la maîtresse de la Chênaie qui l'aide à tirer sa peau d'ours. Alors, c'est intéressant parce que là aussi, on voit Renoir à l'étroit dans cette peau d'ours qu'il n'arrive plus à enlever. Et on n'a pas pu, j'ai pas pu avoir un extrait, mais dans La Grande Illusion, von Stroheim, au début du film, a beaucoup de mal à se départir de sa combinaison d'aviateur. ils viennent de descendre l'avion ennemi, enfin l'avion dans lequel se trouvait Maréchal et de Boieldieu, et lui-même veut enlever sa combinaison et il a du mal parce que vous voyez, il a une minerve, il a été blessé à la guerre et il est un personnage d'une grande raideur et cette minerve aide bien sûr à la raideur. Et finalement, c'est le même personnage qui cherche partout autour, enfin qui cherche autour de lui les gens qui vont pouvoir l'aider à enlever sa combinaison. Donc il y a un écho visuel de cette scène d'un film dans l'autre. Les deux personnages que vous voyez là, c'est à gauche la pianiste qui était une actrice qui était elle-même la fille de deux grands musiciens de l'époque. Et puis derrière, c'est un personnage qui a très souvent joué les rôles d'homosexuels, de personnages ambigus. Et là, il n'a pas de rôle particulier. C'est un peu comme le noir dans La Grande Illusion. Il a juste ce... il ne parle pas. Il n'a pas de rôle. Il a juste cette présence de l'ambiguïté entre les sexes à l'intérieur de ce film. Et puis là, vous voyez... la comtesse et sa camériste, donc la camériste qui est jouée par Paulette Dubost. Et Paulette Dubost, vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est un personnage tout à fait... Alors là, Renoir s'est inspiré en fait de trois auteurs. Il cite Beaumarchais au début, Le mariage de Figaro ou la folle journée. Il cite Les caprices de Marianne de Musset. Et il cite aussi, j'arrive plus à trouver, mais non maintenant, peu importe. Qu'est-ce qu'il cite? Beaumarchais, Musset, ben Marivaux bien sûr, donc, parce qu'il y a du marivaudage, etc. Donc Marivaux, ce serait plutôt Le jeu de l'amour et du hasard, Musset, c'est Les caprices de Marianne, et Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Il y a un peu un mélange de tout, c'est-à-dire le quiproquo de quelqu'un qui porte le vêtement de quelqu'un d'autre et qui est pris pour cette autre personne. Là, malheureusement, c'est l'aviateur qui va être assassiné parce qu'on le prend pour quelqu'un d'autre. Et il y a surtout le thème de marivaudage, de passage d'un partenaire à un autre, d'ambivalence, de recherche amoureuse, etc. Et le tout est emporté par des dialogues qui sont là eux aussi assez enlevés, avec des traits d'humour. Le personnage... Alors, le personnage de Schumacher, qui est le mari de Paulette Dubost dans l'histoire, c'est un des acteurs principaux du film La Grande Illusion, et son portrait avait été fait par Modigliani. Et il s'appelle Gaston Modo. Ces personnages sont filmés avec l'assistance de Henri Cartier-Bresson comme assistant réalisateur, assistant opérateur Alain Renoir, musique Cosma. On retrouve l'équipe. Jacques Becker fait souvent partie de cette équipe aussi, et parfois apparaît comme personnage secondaire dans le film. Henri Cartier-Bresson, par exemple, joue le rôle d'un domestique anglais dans l'histoire. La règle du jeu a reçu un accueil très mitigé. Apparemment, même un des spectateurs a essayé de mettre le feu à la salle de spectacle, tellement il était mécontent du film. Mais en même temps, quelques années plus tard, le film a été salué comme un film précurseur. On peut se dire aussi, par exemple, que le film « L'ange exterminateur » de Buñuel est calqué sur ce film-là, avec des personnages qui se retrouvent tous ensemble chez quelqu'un qui les a invités. Et pour une raison ou pour une autre, personne ne peut plus repartir. Il se trouve... coincé à l'intérieur. Et cette atmosphère-là, elle est déjà en germe un petit peu là-dedans, au moment de la danse macabre et des personnages qui sont là, entourés des danseurs. Mais en même temps, ce qu'on voit bien dans la danse macabre, c'est qu'il y a un entrecroisement de jeux amoureux dont on est spectateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une intrigue. Il y en a quatre en même temps, à ce moment-là. Il y a la camériste qui veut partir avec Carette, avec le braconnier devenu maître d'hôtel. Il y a Schumacher qui surveille sa femme et veut l'empêcher de partir. Mais il y a aussi la comtesse qui part avec un personnage qui n'est aucun de ses amoureux. Il y avait Roland Toutain, l'aviateur, qui, lorsqu'il arrive au Bourget, dit « Mais je l'ai fait pour une femme, elle n'est même pas là, elle m'a trahi, elle n'est même pas venue me chercher. » Donc lui est très amoureux, et c'est celui-là qui va être assassiné parce que lui n'appartient finalement pas à ce milieu-là. Il n'est ni assez gouailleur pour être le braconnier qui plaît au comte, ni assez riche, et n'appartenant pas à ce milieu-là, c'est lui qui devient en quelque sorte le bouc émissaire pour que cette société puisse continuer à fonctionner. Or, c'est une société que Renoir décrit comme assez perverse. Et la comtesse donc ne part ni avec Roland Toutain, qui surveille et qu'on voit triste dans son coin, ni avec son mari, dont elle croit qu'il la trompe alors qu'il vient de rompre avec sa maîtresse, mais elle a vu, en ayant les jumelles pour regarder les oiseaux, elle a aperçu son mari en train d'embrasser une femme. C'est un baiser d'adieu, mais elle pense qu'elle est trompée, donc elle veut se venger. Vers la fin du film, on s'aperçoit qu'Octave, qui a enfin réussi à se débarrasser de sa peau d'ours, vous pouvez passer par là, c'est pas gênant, qui a réussi à se débarrasser de sa peau d'ours, lui fait une déclaration d'amour en disant « Je te connais depuis ton enfance, mais je suis amoureux de toi maintenant. » Donc elle a pléthore d'amoureux, mais là, elle part avec encore un énième.
On va essayer de conclure, là, parce qu'on ne va pas y arriver.
D'accord. Alors
d'aller à ce que vous vouliez faire, peut-être la partie de campagne, je sais. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Alors oui, on va passer vite. Alors, on va sauter carrément toute la période américaine. J'y reviendrai peut-être. On va sauter le testament du docteur Cordelier. Alors, le testament du docteur Cordelier, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et voilà. Là, on peut revenir sur le vilain petit canard. On cherchait un fil conducteur dans l'œuvre de Renoir. Et en fait, c'est quand il explique qu'il aime beaucoup la petite marchande d'allumettes, il dit « Mais mon conte préféré d'Andersen, c'est le vilain petit canard. » Et en fait, je pense que si on cherche à définir Renoir, le vilain petit canard lui va à merveille. Il est le fils d'un très grand peintre, Auguste Renoir, qu'on voit sur la photo du centre, sur la droite de la photo. Au-dessus, debout, c'est Pierre Renoir, l'acteur, le grand frère, qui a 7 ans de plus que lui. À côté, sur les genoux de sa maman, Aline Charigot, c'est le petit frère Claude, qui a 7 ans de moins que lui. Donc lui, il est casé au milieu avec un frère qui a 7 ans de plus que lui, qui a 14 ans de plus que le petit frère. Et lui, au milieu, il n'est pas peintre, il n'est ni le plus grand, l'aîné, l'acteur, ni le plus petit, tout mignon, etc. Il va devoir se faire une place. Il est en constante rivalité avec son père. Sa première femme, Catherine Essling, c'était le modèle de Pierre-Auguste Renoir. Il lui a piqué son modèle. Il a eu aussi des aventures avec d'autres modèles, et il a pris d'autres modèles pour tourner dans ses films. Il y a une des personnages de La Bête humaine qui est aussi une des anciennes modèles de Pierre-Auguste. Pour arriver, on peut regarder celle qui est tout de suite à côté, là. Un autre élément, c'est qu'à partir d'un certain moment de célébrité, eh ben, il change de femme, mais il change pour des plus jeunes. Et dans tous ces films, vous avez un vieux avec une jeune qui dit « Je comprends pas comment t'es avec moi parce que je suis si vieux, je suis pas beau, etc. » Et elle lui dit « Mais je t'aime. » Et dans tous les films, il y a ça. Et là, on la voit avec Marguerite Eulé-Renoir, sa monteuse, qui, à l'évidence, est beaucoup plus jeune que lui. Un autre élément, vous le voyez ici avec une casquette. Il y a d'autres photos un petit peu sur le côté aussi où on le voit avec une casquette, plus jeune, avec une casquette. Donc, c'est l'homme à la casquette. Vous voyez qu'il a des bonnes joues bien rondes. Si on passe à la diapo suivante, on va y arriver. Il s'est mis à se plonger dans l'impressionnisme. Et il a fait un film qui s'appelle Une partie de campagne. Et après, c'était le déjeuner sur l'herbe dans les années 60. Et donc, je vous ai réuni tous les déjeuners sur l'herbe existants. Celui-ci, c'est de Manet, à gauche. Les autres sont de Monet, tous dans les années 1880, quelque chose comme ça. Celle du milieu, c'est de son père, Pierre-Auguste Renoir. Donc, il existe pléthore, à l'époque des impressionnistes, pléthore de déjeuner sur l'herbe. Et ben, lui, il a voulu faire son déjeuner sur l'herbe. Donc, chaque fois, il essaye de s'affirmer contre son père. Et quand il a aux alentours de 70 ans, il écrit un livre, Auguste Renoir, mon père, alors que Renoir est décédé, si ma mémoire est bonne, Aline est décédée en 1915, Auguste Renoir a dû décéder en 19. Donc, il est décédé depuis très longtemps. Le livre est plein d'inexactitudes. Il ne se souvient même plus du prénom de sa grand-mère. Il ne se souvient pas de la différence d'âge entre ses parents, etc. Mais ça ne fait rien, il avait envie de causer. Donc, il s'exprime et, en même temps, il reprend avec intelligence tout ce que ce monde de peintres lui a apporté. Parce qu'il n'y avait pas seulement son père, il y avait tous les amis. Parce que Renoir, c'était quand même une figure. La toute première figure, c'était Pissarro. Mais après, Renoir était parmi les vieux et donc il a été aussi un fédérateur, d'autant qu'il aimait bien inviter. Il a eu plusieurs maisons, une à Essois, une aux Canettes près de Nice, etc., où il aimait inviter des autres peintres. Donc Renoir s'en est inspiré pour son cadrage. On va passer à la suivante pour finir. Voilà. Oui. Donc, il s'en est inspiré. On va sauter celle-là pour que. Voilà. Pour son cadrage. Aussi, vous pouvez voir, par exemple, dans une partie de campagne, vous avez le thème de la balançoire que vous retrouvez dans un tableau de Renoir où vous voyez une femme sur sa balançoire. Alors. Tout à fait à droite. Voilà, on y arrive, en couleur. En haut, au-dessus, voilà. Donc, vous voyez la femme sur sa balançoire. Vous remarquez qu'elle a des nœuds sur sa robe. Dans le film de Renoir, c'est pas les nœuds ne sont pas sur la robe de la jeune fille en balançoire qui est jouée par... je retrouverai après. C'est pas la jeune fille sur la balançoire qui est jouée par Sylvia Bataille. Mais c'est sa maman qui a la robe en question avec les nœuds. Donc chaque fois, il y a des références, mais on joue avec, on s'amuse. C'est quand même une dame plus âgée, plus replète, qui a cette belle robe avec les nœuds. Et quand elle est sur la balançoire, la maman, elle n'arrive pas à bouger, elle doit demander à son mari de venir la pousser. Donc c'est le côté érotique est largement absent de ce côté-là. Alors que Sylvia Bataille, qui a eu pléthore d'amants et qui a écrit des livres érotiques, etc., elle plaisait beaucoup à l'époque. Hein. Elle a été choisie pour sa puissance de sexe symbole à ce moment-là. Ensuite, dernière image, son goût du cadrage. J'ai récupéré un certain nombre de fenêtres. Là, les deux premières C'est justement pour une partie de campagne. Et vous voyez le jeu que j'avais signalé déjà, c'est-à-dire chaque fois, on a un champ contre champ. On a toujours une fenêtre subjective et objective. Donc, soit vous êtes avec les personnages, vous regardez dehors, soit souvent, immédiatement en contre champ, vous êtes dehors et vous voyez les personnages et vous voyez ce qui se passe. Quand on n'a pas de champ contre champ, là, c'est dans la bête humaine, les personnages sont en pause et on les voit derrière une vitre. Chaque fois, il y a des cadrages. Là, vous voyez un personnage, c'est Michel Simon. Il y a encore les carreaux derrière qu'on aperçoit. Donc, ce goût du cadrage, les personnages, quand il n'y avait pas de possibilité, quand ils filmaient en studio, en muet, en noir et blanc, eh ben, ils trouvent un miroir. Parce qu'on ne peut pas ouvrir une fenêtre, ça ferait des contre-jours énormes, ça ne marcherait pas. Donc, ils sont dans un studio, mais le personnage est encadré dans un miroir. Donc, chaque fois, il a besoin d'un cadre. Chaque fois qu'on a eu des scènes avec les trains, il y avait des perspectives, il y avait un travail énorme, ce qui fait qu'en fait, il a réussi à contrer son père sur le terrain de son père, c'est-à-dire sur le terrain qui est d'ordinaire celui de la création d'images et de la peinture. Voilà, je vais m'arrêter là parce que l'heure tourne et Il vous met des mises à jour. Alors,
je ferme.